20. Centre hospitalier de Flint City. Service de pathologie et de sérologie. 2. Docteur Edward Bogan. A. Inspecteur Ralph Anderson. Lieutenant Yunel Sablo. Procureur William Samuels. Date 14 juillet. Sujet typage sanguin et ADN. 100. Plusieurs objets ont été analysés afin de déterminer le groupe sanguin. Tout d'abord, la branche utilisée pour sodomiser la victime. Frank Peterson, un enfant de 11 ans de race blanche. Cette branche mesure environ 55 cm de long et 7 de diamètre. L'écorce a été arrachée sur la moitié de la branche, dans sa partie supérieure, sans doute à la suite d'une manipulation brutale de la part de l'auteur de ce crime, voire photo jointe. Des empreintes sont présentes sur cette section de la branche. Elles ont été photographiées et prélevées par les services criminalistiques de l'État, SCD, avant que les indices soient transmis au détective Ralph Anderson, police de Flint City, et au trooper Yunel Sablo, police d'État poste 7. Je peux donc affirmer que la chaîne de transmission des indices n'a pas été contaminée. Le sang retrouvé sur les 12 premiers centimètres de la branche est de type O positif, qui correspond au groupe sanguin de la victime, comme l'a confirmé le médecin de famille de Frank Peterson, Horace Connolly. Il y a de nombreuses autres traces de sang O positif sur la branche, dues à un phénomène appelé projection ou mousse. Celles-ci ont probablement jailli durant le viol, et on peut logiquement penser que l'auteur a reçu lui aussi des projections sur la peau et ses vêtements. Des traces d'un autre groupe sanguin ont également été retrouvées sur la branche. Il s'agit de sang AB positif, un groupe beaucoup plus rare, 3% de la population. Je pense qu'il s'agit du sang de l'auteur du crime et qu'il a dû s'entailler la main en manipulant la branche avec une très grande violence. Par ailleurs, une importante quantité de sang O positif a été découverte sur le siège avant, le volant et le tableau de bord d'une camionnette Econoline de 2007 abandonné sur le parking derrière le Shorty's Pub, 1124 Main Street. Des taches de sang AB positif ont également été retrouvées sur le volant. Ces échantillons m'ont été transmis par les sergents Elmer Stanton et Richard Spencer, du SCD. Je peux donc affirmer que la chaîne de transmission des indices n'a pas été contaminée. Signalons également une importante quantité de sang de type O positif sur les vêtements. Chemise, pantalon, chaussettes, basket Adidas, slip jockey. Retrouvé à l'intérieur d'une Subaru de 2011, découverte à proximité d'un ponton abandonné près de la route 72, également appelée Old Forge Road. Présence d'une tache de sang AB positif sur le poignet gauche de la chemise. Ces échantillons m'ont été transmis par le trooper John Corita, poste 7. Et le sergent Spencer du SCD. Je peux donc affirmer que la chaîne de transmission des indices n'a pas été contaminée. Au moment où je rédige ce rapport, aucune trace de sang AB positif n'a été retrouvée à bord de la Subaru Outback. Il est possible que les égratignures infligées à l'auteur du crime aient eu le temps de coaguler au moment où il a abandonné le susdit véhicule. Il est possible également qu'il ait bandé ses blessures. Mais cela me paraît peu probable car les échantillons sont infimes. Il s'agissait très certainement de coupures superficielles. Je recommande une analyse rapide du sang du suspect en raison de la rareté relative du groupe AB positif. ADN. La quantité d'échantillons d'ADN en attente d'analyse à Cap City est toujours très importante et, en temps normal, on ne peut pas obtenir les résultats avant des semaines, voire des mois. Toutefois, compte tenu de l'extrême brutalité de ce crime et de l'âge de la victime, les échantillons prélevés sur la scène de crime ont été placés au début de la file. Parmi ces échantillons figurent principalement le sperme retrouvé sur les cuisses et les fesses de la victime. Mais des échantillons de peau ont également été prélevés sur la branche utilisée pour sodomiser le petit Peterson. Sans oublier bien évidemment, les traces de sang susmentionnées. Les analyses concernant le sperme, destinées à obtenir une identification potentielle, devraient arriver la semaine prochaine. Le rapport sera peut-être même disponible avant, d'après le sergent Stanton. Mais j'ai déjà été confronté à ce genre de problème, et il me semble plus prudent de miser sur vendredi prochain, même dans une affaire prioritaire comme celle-ci. Conscient d'enfreindre le protocole, je me sens tenu néanmoins d'ajouter un commentaire personnel. Dans ma carrière, j'étais amené à examiner de nombreux indices relatifs à de nombreux meurtres, mais jamais je n'étais confronté à un tel crime, et la personne qui l'a commis doit être arrêtée de toute urgence. Compte rendu dicté à 11h par le docteur Edward Bogan. 21. Howie Gold termina son entretien privé avec Terry à 20h40, soit 10 minutes avant la fin de la demi-heure qu'on lui avait accordée. À ce moment-là, Ralph et Bill Samuels avaient été rejoints par Troy Ramage et Stephanie Gould, une agente de police qui avait pris son service à 20h. Elle tenait à la main un kit de prélèvement ADN encore dans son sachet en plastique. Ignorant la menace lancée par Howie, Ralph demanda à l'avocat si son client acceptait de se soumettre à un prélèvement de salive. Howie bloquait la porte de la salle d'interrogatoire avec son pied pour l'empêcher de se refermer. « Ils veulent effectuer un prélèvement de salive, Terry. Tu es d'accord ? Ils l'obtiendront de toute façon, et je dois passer quelques coups de téléphone urgents. »« D'accord, » dit Terry. Des cernes étaient apparues sous ses yeux, mais il paraissait calme. « L'essentiel, c'est que je puisse sortir d'ici avant minuit. » Il semblait absolument convaincu que c'était ce qui allait se passer. Ralph et Samuels échangèrent un regard. Le haussement de sourcils du procureur le fit ressembler plus que jamais à Alfalfa. « Appelle ma femme !» demanda Terry. « Dis-lui que je vais bien. » Howie sourit. « Elle est en première position sur ma liste. »« Allez au bout du couloir, » lui conseilla Ralph. « Vous aurez 5 barres. » « Je sais, je suis déjà venu, c'est un peu comme une réincarnation. » Puis, s'adressant à son client, « Pas un mot avant mon retour. » L'agent Ramage effectua les prélèvements. Un coton-tige différent pour l'intérieur de chaque joue. Il les montra à la caméra avant de les déposer dans un petit flacon. L'agent Gould remit le flacon dans le sac en plastique et le leva devant la caméra pendant qu'elle le scellait à l'aide d'un autocollant rouge portant la mention « Indice ». Après quoi, elle signa la fiche de traçabilité. Les deux agents iraient ensuite déposer le prélèvement dans la remise, de la taille d'un placard, qui servait à stocker les pièces à conviction. Avant d'être archivés, ils seraient présentés encore une fois devant une caméra fixée au mur. Deux autres agents, de la police d'État sans doute, le transporteraient à Cap City le lendemain. Ainsi la chaîne ne serait pas contaminée, aurait dit le docteur Bogan. Tout cela pouvait sembler un peu excessif. Mais ce n'était pas une plaisanterie. Ralph avait insisté pour qu'il n'y ait pas le moindre maillon faible dans la chaîne. Aucune bévue, aucune faille permettant une libération. Pas dans cette affaire. Samuels retourna dans la salle d'interrogatoire pendant que Howie passait ses appels près du bureau principal. Mais Ralph resta dans le couloir. Il voulait écouter. L'avocat s'entretint brièvement avec l'épouse de Terry. Ralph l'entendit dire « Tout va s'arranger, Marcy ». Avant de passer un second appel, plus bref encore, pour informer quelqu'un de l'endroit où se trouvaient les filles de Terry, et rappeler à cette personne que la presse allait envahir Barnum Court. Il fallait donc prendre les mesures qui s'imposaient. Sur ce, il regagna la salle d'interrogatoire. « Bon, » dit-il, « voyons si on peut régler ce merdier. » Ralph et Samuels s'assirent en face de Terry, de l'autre côté de la table. La chaise entre eux demeura vide. Howie choisit de rester debout à côté de son client, une main posée sur son épaule. Souriant, Samuels attaqua le premier. « Vous aimez les petits garçons, hein, coach ?» Aucune hésitation dans la réponse de Terry. « Beaucoup. J'aime aussi les petites filles, puisque j'en ai 2 moi-même. Et je suis sûr que vos filles font du sport. Avec coach T pour père, comment pourrait-il en être autrement ? Pourtant, vous n'entraînez aucune équipe féminine, n'est-ce pas ? Ni football, ni softball, ni lacrosse. Vous vous en tenez aux garçons. Baseball l'été, football à l'automne, et basket au YMCA en hiver. Même si là, vous êtes juste spectateur. Tous ces samedis après-midi au Y. C'était ce qu'on pourrait appeler des missions de repérage, non? Vous recherchiez des garçons rapides et agiles. Et peut-être que vous en profitiez pour les regarder en short. Ralph attendait que Howie mette fin à cette tirade. Mais l'avocat demeurait muet. Pour l'instant, du moins. Son visage était devenu totalement inexpressif. Rien ne bougeait, hormis ses yeux qui allaient d'une personne à l'autre. « Ça doit être un sacré joueur de poker », pensa Ralph. Terry, lui, souriait. « Vous tenez ça de Willow Rainwater, je parie. »« Forcément. Un sacré numéro, hein. Vous devriez l'entendre beugler samedi après-midi. »«
Au rebond! Au rebond! Levez les pieds! Foncez au panier !»«
Comment elle va ?»« À vous de me le dire, » répondit Samuels. « Après tout, vous l'avez vu mardi soir ?» Non, je... Howie pinça l'épaule de Terry pour l'empêcher d'en dire plus.
Bon, intervint-il. Si on arrêtait l'interrogatoire pour les nuls, hein? Dites-nous plutôt pourquoi Terry est ici. Allez-y, déballez tout.
Dites-nous où vous étiez mardi, répliqua Samuels. Vous avez commencé, terminé.
J'étais... Howie Gold lui pinça l'épaule de nouveau, plus fort cette fois.
Non, Bill, ça ne marche pas comme ça. « Dites-nous ce que vous avez, ou sinon, je vais voir les journalistes pour leur annoncer que vous avez arrêté un éminent citoyen de Flint City pour le meurtre de Frank Peterson, que vous avez sali sa réputation et terrorisé sa femme et ses filles, et que vous refusez d'expliquer pourquoi. »
Samuels se tourna vers Ralph, qui haussa les épaules. Si le procureur n'avait pas été présent, Ralph aurait déjà exposé tous les indices, dans l'espoir d'obtenir des aveux rapides.
« Allons-y, Bill. » reprit Howie. Cet homme a besoin de rentrer chez lui et de retrouver les siens.
Samuels sourit, mais il n'y avait aucun humour dans ses yeux. Il se contentait de montrer les dents.
Il verra sa famille au tribunal, Howard, lundi, lors de la lecture de l'acte d'accusation.
Ralph sentait craquer l'étoffe de la politesse. Il rejetait la majeure partie de la faute sur Bill, rendu véritablement fou furieux par ce crime et par l'homme qui l'avait commis. Comme le serait n'importe qui. Mais ce n'est pas ça qui fait avancer la charrue, aurait dit son grand-père.
Avant de commencer, j'ai une question pour votre client, dit Ralph, en faisant un gros effort pour afficher un air enjoué.
Juste une.
D'accord, maître? De toute façon, on finira par avoir la réponse.
Howie parut soulagé de pouvoir reporter son attention sur une autre personne que Samuels.
Je vous écoute.
Quel est votre groupe sanguin, Terry? Vous le connaissez?
Terry se tourna vers son avocat, qui haussa les épaules avant de revenir sur Ralph.
Évidemment que je le connais. Je donne mon sang 6 fois par an à la Croix-Rouge, car il est assez rare.
AB positif?
Terry ouvrit de grands yeux.
Comment vous le savez?
Puis, devinant la réponse, il s'empressa d'ajouter:
Mais pas si rare que ça. Un groupe sanguin vraiment rare, c'est AB négatif, 1% de la population. La Croix-Rouge tient à jour le fichier de ses donneurs, croyez-moi.
Quand on parle de choses rares, je pense toujours aux empreintes,
intervint Samuels d'un ton léger.
Peut-être parce qu'elles apparaissent souvent au tribunal.
Et rarement dans les arguments du jury, souligna Howie.
Samuels ignora cette remarque.
Il n'y en a jamais deux semblables, poursuivit-il. Même dans les empreintes d'authentiques jumeaux, il existe d'infimes différences. Dites-moi, Terry, vous n'auriez pas un frère jumeau par hasard?
Vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez relevé mes empreintes à l'endroit où le petit Peterson a été tué, si?
L'expression de Terry exprimait la plus grande incrédulité. Ralph devait le reconnaître. C'était un sacré acteur et, visiblement, il était décidé à jouer son rôle jusqu'au bout.
On a tellement d'empreintes que je ne peux même plus les compter, répondit Ralph. Il y en a partout. Sur la camionnette blanche qui vous a servi à enlever le garçon. Sur son vélo, que l'on a retrouvé à l'arrière de la camionnette. Sur la boîte à outils qui était dans cette camionnette. Sur la Subaru que vous avez récupérée derrière le Shorties.
Il s'interrompit, avant d'ajouter.
Et sur la branche qui a servi à sodomiser le petit Peterson. Une agression si violente que les blessures internes à elles seules auraient suffi à le tuer.
Pas besoin de poudre ou de lumière ultraviolette pour relever ses empreintes, ajouta Samuels. Elles sont imprimées dans le sang du garçon.
C'était généralement à ce moment-là que la plupart des meurtriers, 95% disons, craquaient, avocat ou pas. Mais pas celui-ci. Ralph vit la stupeur et l'effroi se peindre sur le visage de l'homme, mais pas la culpabilité.
Howie enchaîna.
« Vous avez des empreintes ? Parfait. Ce ne serait pas la première fois qu'on manipule des empreintes.
« Quelques-unes peut-être, » dit Ralph.
« Mais 70, 80, dans le sang, sur l'arme elle-même. »
« Nous avons également une ribambelle de témoins, » ajouta Samuels.
Il entreprit de les énumérer en comptant sur ses doigts.
« On vous a vu aborder le petit Peterson sur le parking de l'épicerie fine Gerald's. On vous a vu charger son vélo à l'arrière de la camionnette. On l'a vu monter à bord avec vous. On vous a vu sortir du bois où le meurtre était commis, couvert de sang. Je pourrais continuer, mais ma mère m'a toujours dit qu'il fallait en garder pour plus tard. »
Les témoins oculaires sont rarement fiables, répliqua Howie. Déjà, les empreintes digitales sont sujettes à caution, mais les témoins...
Il secoua la tête. Ralph reprit la parole.
Dans la plupart des affaires, je serais d'accord avec vous. Mais pas ici. Récemment, j'ai interrogé quelqu'un qui m'a dit que Flint City n'était qu'une petite ville. Je ne suis pas certain de partager cet avis. Néanmoins, le West Side forme une communauté très unie, et votre client, M. Maitland, est très connu. Terry, la femme qui vous a identifié devant l'épicerie est une voisine, et la fillette qui vous a vu sortir du bois à Figgis Park vous connaît bien elle aussi. Pas seulement parce qu'elle habite près de chez vous dans Barnum Street, mais parce qu'un jour, vous lui avez rapporté son chien perdu.
June Morris ?
Terry regardait Ralph en affichant une authentique stupéfaction.
Junie ?
Il y en a d'autres, dit Samuels.
Beaucoup d'autres.
Willow ?
Demanda Terry, essoufflé comme s'il avait reçu un direct au plexus.
Elle aussi ?
Beaucoup d'autres, répéta Samuels.
Tous ces témoins vous ont identifié parmi 5 autres personnes, ajouta Ralph. Sans aucune hésitation.
La photo de mon client le représentait coiffé d'une casquette des Golden Dragons et vêtu d'un maillot avec un grand C dessus ?
Demanda Howie.
Ou peut-être que la personne chargée de l'interrogatoire tapotait dessus avec son doigt ?
Vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça, rétorqua Ralph. En tout cas, je l'espère.
C'est un cauchemar, dit Terry.
Samuels lui adressa un sourire compatissant.
Je comprends. Pour y mettre fin, il suffit de nous raconter pourquoi vous avez fait ça.
Comme s'il existait une raison qu'une personne saine d'esprit puisse comprendre, songea Ralph.
Ça pourrait faire la différence,
poursuivit le procureur, d'un ton presque enjôleur maintenant.
Mais vous devez avouer avant qu'on reçoive les résultats des analyses d'ADN. Quand on aura établi la similitude avec le prélèvement de salive,
il conclut par un haussement d'épaule.
« Dites-nous tout, Terry, » enchaîna Ralph. « J'ignore s'il s'agit d'un coup de folie passager, d'un acte commis dans un état second, d'une pulsion sexuelle ou d'autre chose, mais expliquez-nous !»
Il entendait son ton monter, et il envisagea de la boucler, puis il pensa
« Et puis merde !»« Comportez-vous en homme, dites-nous tout !»
Comme s'il se parlait à lui-même, plus qu'aux hommes assis de l'autre côté de la table, Terry répondit « Je ne sais pas comment on en est arrivé à cette situation. Je n'étais même pas en ville mardi. »«
Où étiez-vous alors ?»
interrogea Samuels.
« Allez-y, racontez-nous, j'adore les bonnes histoires. Quand j'étais au lycée, j'ai lu presque tous les Agatha Christie. »
Terry se tourna vers son avocat, qui hocha la tête. Mais Ralph trouvait que Howie Gold paraissait inquiet désormais. L'histoire du groupe sanguin et des empreintes digitales l'avait ébranlé. L'énumération des témoins encore plus. Plus que tout, peut-être, il avait été secoué par la déposition de la petite Junie Morris, dont le chien avait été retrouvé par ce brave coach T, sur qui on pouvait toujours compter.
« J'étais à Cap City. Je suis parti d'ici mardi matin. Je suis rentré mercredi soir, tard, enfin, tard pour moi, vers 9h30.
Je suppose qu'il n'y avait personne avec vous,
ironisa Samuels.
Vous êtes parti tout seul pour faire le point, c'est ça? En vue du grand match? Vous avez pris votre voiture ou la camionnette blanche? Au fait, où aviez-vous planqué cette camionnette? Et comment se fait-il que vous ayez volé un véhicule immatriculé dans l'État de New York? J'ai une théorie à ce sujet, mais j'aimerais vous entendre la confirmer ou l'affirmer.
Vous voulez écouter ce que j'ai à dire, oui ou non? Demanda Terry. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il avait recommencé à sourire.
Peut-être que vous avez peur d'entendre ma version.
Vous êtes dans la merde jusqu'à la taille, monsieur le procureur, et vous continuez à vous enfoncer.
Ah oui? Dans ce cas, pourquoi de nous deux, c'est moi qui vais pouvoir sortir d'ici et rentrer à la maison après cet interrogatoire?
Du calme, intervint Ralph. Samuels se tourna vers lui. Son épi se balançait de haut en bas. Ralph ne trouvait plus cela comique.
Ne me dites pas de me calmer, inspecteur. Nous sommes en présence d'un homme qui a violé un enfant avec une branche et l'a ensuite égorgé comme un putain de cannibale.
Gold leva les yeux vers la caméra fixée dans un coin. Il s'adressait maintenant au futur jury.
Cessez de vous comporter en enfant colérique, monsieur le procureur, ou sinon je mets fin immédiatement à cet interrogatoire.